Nous prenons la parole dans Luc au chapitre 15. Luc au chapitre 15. La Bible dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. » Nous lisons Luc 19, à partir du verset 1er encore. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Il y a une vérité, une très grande vérité, c'est le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, Dieu a déjà par avance exprimé son plan, exprimé ses objectifs pour l'humanité. Et il y a une phrase qui est dite dans le livre de la Genèse, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, si on veut très bien comprendre, c'est que il faut voir quand un père a un fils qui lui ressemble exactement, quel avenir il donne à ce fils-là, surtout le premier. Quel avenir lui donne-t-il? Il lui donne l'héritage. Il lui prépare l'héritage. Donc tout ce que lui a, il prépare ce fils à l'avoir. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Dans cette phrase-là se trouvent tous les enjeux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dieu a créé l'homme à son image, donc pour un être semblable à lui. Quand il regarde l'homme, il voulait se regarder à travers l'homme. Alors quand l'homme a péché, la conséquence c'est quoi? Il va chercher à rétablir l'homme tel qu'il avait créé. Tout est là, dans cette phrase-là. Dieu a créé l'homme à son image. Mais quand Dieu a créé l'homme, et il a créé l'homme et femme, mais pour lui c'était un homme. Homme et femme, ça faisait un homme. l'homme selon Dieu, tel que Dieu le veut. Et c'est ça la volonté de Dieu, que l'homme soit à son image. Bien-aimé, Dieu s'intéresse à l'homme, à un homme. Mon thème d'aujourd'hui, c'est l'homme, l'objectif de Dieu. Ou on peut dire chaque homme, l'objectif de Dieu, et tout chrétien, l'instrument de Dieu. Ou alors, le chrétien, instrument de Dieu. Nous venons de lire deux textes. Dans ces deux textes, nous voyons qu'il y a des foules. Dans ces deux textes, Jésus donne l'exemple d'un homme. Dans l'un des textes, Jésus donne l'exemple d'un homme qui a 100 brebis. Il perd une seule. Il va tout faire. Il laisse les 99 sous protection. Il va aller chercher la seule brebis qui manque. Et la Bible dit qu'il a cherché avec force, avec détermination jusqu'à ce qu'il trouve cette brebis. Et quand il la trouve, quelle joie! Et Jésus nous dit une vérité. Il dit que cela ressemble à la repentance d'un seul pécheur. Quand un seul pécheur se repent, il y a une plus grande joie que quand il n'y a pas de gens pour se repentir. Donc ça montre l'intérêt de Dieu pour l'homme. Il veut juste un homme, sauver un homme, mais il se fait qu'il y a plusieurs hommes. Mais Dieu s'intéresse à chaque homme. Aujourd'hui, quand nous parlons évangélisation, nous voyons forcément la foule, nous voyons forcément la masse, nous voyons beaucoup de monde. Mais Dieu, lui, ne voit pas les choses comme nous. Dieu s'intéresse à chaque homme. Et comme il y a plusieurs hommes, donc il se fait qu'il s'intéresse à tous, mais c'est chaque homme qui intéresse Dieu. Vous savez, c'est la comparaison que je peux donner, si vous prenez une sorte de machette ou bien une tondeuse à gazon. Quand vous tondez votre pelouse, bien-aimé, vous ne choisissez pas quelle herbe couper. Vous coupez dans l'ensemble, une zone. Avec la machette, pareil, quand on coupe, on touche toute une zone. Quand on prend une paire de ciseaux pour couper les cheveux, on coupe toute une zone. Mais Dieu, c'est comme si lui, il arrachait chaque cheveu. Donc s'il veut te coiffer, il va commencer à arracher chaque cheveu, et bien équilibrer chaque cheveu, sa mission. Voilà l'image qu'on peut donner. C'est comme si Dieu voulait tondre l'herbe, la pelouse, il va s'occuper de chaque herbe, et bien sûr, à la fin, puisqu'il est tout puissant, toutes les herbes coiffées vont être en harmonie, mais il s'occupe de chacune. Il ne fait pas les choses dans l'ensemble. Il ne fait pas les choses dans une logique de masse. Il fait les choses dans une logique individuelle. Parce que quand Dieu a créé, il a créé l'homme. Il n'a pas créé beaucoup d'hommes. C'est un homme qui l'intéresse. C'est l'homme qui intéresse Dieu. Et Jésus dit clairement, je vais relire ça. De même, je vous dis au verset 10 de Luc 15, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Et il y a de la joie dans le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu tient à l'homme, un homme, chaque homme. Donc tel que tu es là, Dieu s'intéresse à toi individuellement. Il ne te prend pas en masse. Il y a des gens qui disent, mais oui, mais 6 millions de juifs sont morts. C'est comme si Dieu ne s'est pas intéressé aux 6 millions. Les 6 millions ont été tués comme ça, sans que Dieu soit au courant. Là, c'est impossible. La Bible nous montre qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Donc Dieu s'intéresse à chaque pécheur. La Bible dit que le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Convaincre chaque individu. Certains parfois disent, mais un tel est mort, mais qui lui a annoncé l'évangile? Mais bien aimé, la Bible dit que Dieu ne fait pas exception des personnes, il ne fait pas de favoritisme. Si il y a eu quelqu'un pour t'annoncer l'évangile, il y a eu quelqu'un aussi pour annoncer à l'autre qui est mort l'évangile. Toi, tu ne sais pas. Mais sache que Dieu De la même manière qu'il s'est intéressé à toi, il s'intéresse à chaque personne. Et tel que tu es là, ne prends pas les choses dans la globalité, dans la masse. Considère que c'est une affaire personnelle. Le fait de trouver Dieu, c'est une affaire personnelle, individuelle. Ce n'est pas une affaire de masse, ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire individuelle. Et quand on réalise cela, que Dieu s'intéresse à moi, David était étonné de se rendre compte que Dieu s'intéressait à lui. Lui qui est un petit homme, un individu, dans la masse, Dieu s'intéressait à lui. Mais sache aujourd'hui que Dieu s'intéresse à toi individuellement. C'est comme si pour Dieu, il n'y avait pas les autres quand il est avec toi. C'est toi. C'est toi. Quand tu n'es pas sauvé, c'est toi qui es visé. Il veut te sauver, toi. Même si tu es mauvais, même si tu es bandit, même si tu n'aimes pas. Je sais qu'il y a certains qui sont là parfois forcés par leurs parents ou bien un peu poussés par l'ambiance des amis ou bien l'ambiance familiale. Même si toi, dans ton cœur, tu dis que tu n'aimes pas Dieu, tu doutes de lui, mais lui, il t'aime. Il t'a créé pour que tu puisses lui ressembler. Même si tu es venu le combattre, lui, il t'aime. Un jour, on a fait un concert à Grand Couronne. Il y a un monsieur qui a dit, bon, vos chants sont bons, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Moi, j'ai dit, même si tu ne crois pas, lui, il t'aime. Ça ne change pas le fait qu'il t'aime. Et la discussion s'est arrêtée là. Ça ne change pas le fait que lui, il t'aime. Lui, il s'intéresse à toi, à chaque homme. Même si toi, tu ne crois pas, il s'intéresse à toi. Il veut te sauver. Bien-aimé, tous ceux qui aiment évangéliser, soyez fortifiés. Dieu s'intéresse à chaque homme. Ne vous méprenez pas. N'ayez pas l'impression que Dieu prend les choses dans la masse. On doit toujours organiser des choses où il y a la masse, où il y a le volume. Non. Sachons que Dieu s'intéresse à chaque homme. Et si tu es prédicateur, ne viens pas prêcher à la masse. Fais comme si tu prêchais à un homme. Ne fais pas comme si tu faisais un discours de président de République le jour des indépendances. Non. Tu fais un discours à l'homme que Dieu a créé et qu'il aime avec beaucoup d'amour, à tel point qu'il a voulu que son fils meure pour payer à la place de l'homme pécheur. Dieu aime l'homme individuellement. Soyons dans cette connaissance-là. Ne négligeons pas l'homme. L'objectif de Dieu, c'est l'homme. Vous savez, quand notre frère d'Égypte, Khalid, s'est converti, c'était un intégriste musulman. Et quand Jésus l'a touché, il dit que le matin, quand il s'est converti la nuit, et le matin, quand il se promenait, il avait l'impression que tout homme était devenu beau. Il embrassait les clochards, il allait saluer. Il avait l'impression que tout était beau. En réalité, il voyait comme Dieu voyait. Il voyait tout homme comme étant sauvable. Tout homme comme... Il voyait l'objectif de Dieu pour chaque homme. Dieu veut sauver chaque homme, bien-aimé. Soyons dans cette réalité-là, dans cette espérance-là, dans cette force-là, dans cette foi-là, que Dieu s'intéresse à chaque homme. Même si l'homme ne s'intéresse pas à lui, Dieu s'intéresse. Nous allons lire l'histoire de quelqu'un qui tuait même des chrétiens, qui combattait les chrétiens, mais que Dieu a sauvé. Nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres au chapitre 9. La Bible dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, «
Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait. Alors que Saul de Tarse avait des lettres, des pouvoirs pour arrêter les chrétiens, les emprisonner, les condamner, alors qu'il s'est dirigé à Damas pour faire ce sale travail, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ s'est révélé à lui. La puissance de Dieu est descendue sur lui. Et ce jour-là, il était converti. Et quand Jésus-Christ dit à son disciple Ananias d'aller prier pour Saul, Ananias dit, mais non, c'est pas possible, Seigneur. C'est un mauvais. Il est venu même nous menacer et nous tuer. Jésus lui dit, non, c'est un instrument que j'ai choisi. Voilà l'amour de Dieu. Dieu traite le cas de chaque homme individuellement. Il ne traite pas les choses en groupe. Il traite le cas de chaque homme individuellement parce que chaque homme intéresse Dieu. Et le cas de Paul était traité au ciel. Il a été décidé qu'à Damas, ça sera le jour du rendez-vous. Et peut-être pour toi, le jour du rendez-vous, c'est aujourd'hui. N'attends pas d'aller à Damas, les avions coûtent cher dans notre époque avec la crise économique. Non, Dieu t'a donné un raccourci ici. Saisis l'occasion de reconnaître qu'il existe, qu'il est bon pour toi, qu'il a envoyé son fils mourir pour toi à la croix, bien-aimé. Quel discours aussi beau tu peux entendre quelque part? Il n'y a pas de discours aussi beau. Il y a un homme qui avait une discussion avec un responsable de l'islam parce qu'ils étaient tous des visiteurs de prison et chacun devait exposer ses théories religieuses pour faciliter la tâche aux autres dans la visite des prisonniers. Et chaque tenant de religion a expliqué aux autres responsables religieux les théories de sa religion. Et le musulman a expliqué tout ce qui concerne le djihad, c'est-à-dire faire la guerre pour la religion, tout le reste. Et le responsable de l'église évangélique de cet endroit-là a posé la question au musulman. Mais est-ce que... Regarde la comparaison que je vais te faire. Toi, on te dit que tu as des points en plus si tu dois me tuer parce que je suis un incroyant. Selon toi, tu as des points en plus qui vont te faciliter la tâche d'aller au paradis. Mais moi, on me dit que je suis déjà sauvé et que je dois être prêt à donner ma vie pour que toi aussi tu ailles au paradis. C'est ma vie que je dois être prêt à donner. Toi, on te dit que tu dois me tuer pour que toi tu ailles. Mais compare ces deux choses-là. Réfléchis. Ce responsable-là de l'islam, c'est arrêté, bien-aimé. Réfléchissons. Où est-ce qu'on va te proposer le salut gratuit? On te dit que tu es qualifié pour aller au ciel parce que quelqu'un d'autre est mort pour toi à la croix. La seule chose qu'on te demande, c'est d'accepter le projet initial de Dieu. Dieu t'avait créé à son image. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu sois esclave du mensonge, de la nourriture, du sexe, de la légèreté. Il t'avait créé pour lui ressembler. Alors on te dit, est-ce que tu acceptes ce projet-là? Si tu dis oui, je l'accepte, mais je suis incapable de pratiquer ce projet, on te dit, pas de problème, ne t'inquiète pas. Jésus, le Fils de Dieu, a pratiqué le projet à ta place. Maintenant, il est mort pour toi afin que tes péchés soient pardonnés et il peut te conférer ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu peux naître de nouveau, il va te donner son esprit afin que tu pratiques le projet. Tout est gratuit. Mais qui est-ce qui a vu, où a-t-on vu un salut si facile? Ça n'existe pas. Et l'apôtre Paul, qui a été sauvé, celui dont on a lu l'histoire, un jour il s'est exclamé, comment les gens peuvent-ils rater un si grand salut? Il ne comprenait pas. Comment les gens peuvent-ils rater un si grand salut? Tout est gratuit, on te propose la nouvelle naissance. On te propose de te donner l'Esprit de Dieu pour que tu sois agréable à Dieu. C'est gratuit. Alors, ton problème, c'est que tu refuses le projet de Dieu. Tu refuses le projet pour lequel il t'a créé, c'est-à-dire lui ressembler, être bon, être amour, être pur. Tu refuses ce projet-là. Mais si tu refuses ce projet-là, alors va dire à Dieu que tu refuses ce projet et qu'il t'envoie là où c'est prévu. Vous savez, quand quelque chose est pourri, ben on l'envoie dans l'incinérateur. Mais est-ce que c'est ça qui est bien? Ce n'est pas ça qui est bien. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Chaque homme, Dieu veut le sauver. Dieu s'intéresse à chaque homme. Nous avons fait souvent du travail de groupe, du travail de masse. Dieu veut qu'on fasse aussi le travail de rongeur. Un rongeur, ça ronge. Il y a des animaux qui avalent comme le boa, il avale tout le morceau. Mais le rongeur, ça ronge. Ça va ronger le bois jusqu'à ce que ça parte, tout finisse. Dieu veut qu'on comprenne que lui, Dieu, il fait le travail de rongeur. Il ne fait pas le travail. Il ne sauve pas un groupe. Il sauve chaque individu. Maintenant, s'il y en a plusieurs dans le groupe, beaucoup sont sauvés. Mais il ne sauve pas le groupe. Je me suis rappelé la première fois que j'ai été fortement touché par le Seigneur. Je faisais partie des gens les plus embêtants de mon école, de mon lycée, des gens qui dérangeaient le plus les professeurs. Et on nous a amenés dans un endroit isolé, on nous a montré le film de Damien qui avait donné sa vie pour les lépreux. La salle était obscure parce qu'on éteint les lumières lorsqu'on projette un film. Et quand j'ai vu Damien, qui avait que sa mère comme famille, qui avait des grands diplômes, aller dans cette île de lépreux, sachant qu'il allait attraper la lèpre, sachant que c'était fini pour lui. Et vous savez, il est mort à 49 ans de la lèpre. Quand j'ai vu ça, moi qui étais dans une mentalité de bandit, j'ai dit, c'est vrai. Quand on dit que Jésus-Christ est mort pour l'humanité, je viens de voir la preuve. Cet homme-là le fait parce qu'il a cru en Jésus. Il imite Jésus en donnant sa vie pour les lépreux. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré fortement. Bien-aimés, dans cette salle, il y avait des gens qui paraissaient plus gentils que moi à l'école, qui paraissaient plus sérieux. Il y a des gens qui étudiaient sérieusement. Il y a des gens qui respectaient les profs. Ils étaient mon opposé. Mais ce jour-là, moi, j'ai été touché. Je ne sais pas comment. Il y avait le rendez-vous avec Dieu ce jour-là. Le salut est individuel. Dieu veut sauver chaque homme. Et il y a des moments où je rencontre tous les gens avec qui j'étais dans cette salle-là. Rares sont ceux qui connaissent Dieu aujourd'hui. Parce que le salut est individuel. Dans cette salle, il y avait plusieurs personnes, mais c'est peut-être le plus fou qui s'est converti. Parce que Dieu avait préparé son rendez-vous. Dieu s'intéresse à chaque homme. N'oublions pas cela. Ne désespérons pas. Continuons à prier pour ceux qui sont mauvais. Continuons à prier pour ceux qui ne croient pas. Continuons à les aimer parce que Dieu les aime et veut les sauver. Il s'intéresse à chaque homme. Il y a un plan de salut pour chaque homme. Il y a un rendez-vous prévu pour chaque homme. La Bible nous dit que la majorité va refuser le rendez-vous avec Dieu. Mais il y a des humains qui accepteront ces rendez-vous et qui seront sauvés. Nous, on n'est pas là à analyser sur la majorité, sur la masse. Pensons à l'amour de Dieu pour chaque homme et focalisons-nous sur cela. Et prions pour les gens. Parlons aux gens. Ne nous attachons pas à la foule. Il y a des gens qui demandent, on leur dit, mais il y a des gens qui veulent entendre parler, pasteur ou bien évangéliste. Oui, mais ils sont combien? Si on lui dit qu'il n'y a qu'une seule personne, ben, il décline le rendez-vous. Mais bien aimé, Jésus-Christ s'est déplacé pour Zachée, tout seul. Il est parti dans sa maison alors qu'il avait toute une foule autour de lui. Il dit que quand il y a 400 brebis, 99 qui semblent en ordre, d'accord, puisqu'elles sont en ordre, on les laisse, on va chercher la seule brebis qui n'est pas en ordre. Jésus-Christ s'est déplacé pour une personne, parce que l'objectif de Dieu, c'est de sauver une personne. Et comme il y a plusieurs une personne, et ça fera plusieurs si ces gens-là acceptent le rendez-vous. Mais comprenons, nous qui sommes là, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. L'objectif de Dieu, c'est l'homme. L'objectif de Dieu, ce n'est pas prendre un pays, parce que la Bible dit que la terre sera détruite. L'objectif de Dieu, ce n'est pas faire des grandes campagnes d'évangélisation qui épatent. L'objectif de Dieu, c'est de sauver un homme. Il peut organiser une grande campagne d'évangélisation pour ne sauver qu'un seul homme. Ce qui l'intéresse, c'est un homme. Et il est prêt à faire tous les sacrifices pour sauver un homme. Et il a fait le sacrifice ultime, c'est de mourir, d'envoyer son fils mourir à la croix pour un homme. Bien-aimé, dis-toi bien que tu serais seul sur la terre, Jésus-Christ serait venu mourir pour toi. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est un homme. Après, puisqu'il y en a plusieurs, eh bien, il s'intéresse à chacun de ces plusieurs-là. Mais la réalité, c'est un homme qui intéresse Dieu. Tu es l'objectif de Dieu. Tu es l'objectif de Dieu. Individuellement, ne pense pas, ne réfléchis pas en groupe. Réfléchis individuellement, tu es l'objectif de Dieu. Ensuite, nous allons voir. Dieu veut nous sauver individuellement, mais il veut nous rassembler aussi. Mais d'abord, il nous sauve individuellement. Il n'y a pas de salut de groupe. Il n'y a pas d'objectif de groupe. Il y a l'objectif individuel. Il y a un plan pour chacun. Parce que Dieu prend en importance chaque humain. C'est ça la vérité. Dans la deuxième partie, nous allons parler du chrétien. La Bible dit, dans 1 Corinthiens, nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 3, la Bible dit, or le Seigneur, 1 Corinthiens 3, je suis dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 3 plutôt, au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà ce que dit le Seigneur à chaque chrétien. Chaque chrétien est le temple de Dieu. Or, il ne saurait y avoir plusieurs temples dans un pays ou bien dans une ville d'un même Dieu. Il n'y a qu'un seul temple. Donc Dieu, tu dois considérer que toute la divinité, si tu es chrétien, Dieu entièrement habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Ne raisonne pas en église. Ne raisonne pas en groupe. Raisonne individuellement pour une fois. Sache que tu es le temple de Dieu. Alors, imagine l'importance que tu as. Le temple de Dieu, Dieu habite en toi. Vous savez, les temples, comment ils étaient? C'était des grands édifices avec des grosses colonnes. Et en général, c'était les édifices les plus en vue d'un pays ou d'une ville. D'ailleurs, parmi les merveilles, les sept merveilles du monde, il y avait un temple, le temple de Diane. Et dans tous les pays, les grands monuments étaient des temples. C'était des édifices impressionnants. Et nous connaissons même le temple de Salomon qui était aussi un édifice impressionnant pour adorer Dieu. Alors imagine maintenant que Dieu te considère comme son temple. Déjà les faux dieux avaient des grands temples. Maintenant, le véritable Dieu, son temple, il sera comment? Maintenant, comprends que c'est toi que Dieu a décidé de que tu sois son temple. Tu es le temple de Dieu. Une habitation pour l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 2, 22. C'est encore très beau ce verset-là. Une habitation de l'Éternel. C'est ce que tu es. Alors, si tu fais la comparaison avec les temples d'autrefois, donc tu vas comprendre l'importance que Dieu t'accorde. Tu habites en lui. Donc, il travaille à travers toi. Parce que c'est dans le temple que les gens venaient pour être aidés par Dieu, pour être écoutés. Maintenant, ce temple-là, c'est toi. Donc, quand j'ai dit dans mon titre, le chrétien, instrument de Dieu, c'est cela. Dieu te voit, toi, son instrument. Il a un projet pour toi en tant qu'instrument. Tu es son temple et tu dois prendre conscience de cela. On a trop raisonné en groupe et en raisonnant trop en groupe, on s'est empêché nous-mêmes d'entrer dans le plan de Dieu parce qu'on n'est pas entré dans une vraie communion avec Dieu. On se considère plusieurs parties disséminées dans le groupe. Or, nous devons être entiers avec Dieu. Nous, Dieu a un plan avec moi, pour moi. Il a un projet pour moi. Je dois considérer ma communion avec lui. Je dois rechercher ce projet. Je dois vivre dans ce projet. Je dois considérer que je suis son temple, son représentant. Vous savez, à l'époque de l'église du premier siècle, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de pasteurs ni de gens titrés comme à notre époque. Évangélistes, toutes sortes de titres, même il y a même... Le pasteur de la Hollande qui m'a dit, il est parti dans une fête de mariage. Toutes les personnes à qui on lui faisait dire bonjour, on disait pasteur un tel, pasteur un tel, pasteur un tel. Donc il a dit moi j'ai voulu me cacher donc qu'on ne sache pas que je suis un pasteur. Parce qu'il y avait plus de pasteurs que de chrétiens, bien aimé. Il y avait plus de pasteurs que de chrétiens. Tout le monde avait un titre, apôtre, prophète. Mais bien aimé. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'habitation de Dieu en toi. C'est ça qui compte. Dieu veut que tu prennes conscience que tu es son temple et c'est sérieux. Et si tu es son temple, tu es ouvrier avec lui. C'est écrit dans 2 Corinthiens 5. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers. Tu es son ouvrier. Il y a une responsabilité sur toi. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas trop de titres comme il y en a à notre époque. Et qui faisait le travail? Chaque chrétien faisait le travail. À son boulot, il parlait du Seigneur. Aujourd'hui, à cause des salles, nous-mêmes, mentalement, on se dit, si je dois sauver quelqu'un, je vais l'amener dans la salle de l'église. C'est devenu un schéma. Mais à l'époque, il n'y avait pas de salles comme les nôtres. Il y avait des maisons. Mais tu ne vas pas dire à quelqu'un, bon, pour sauver un tel, je dois l'amener dans la maison d'un autre tel, mais s'il est en train de manger. Non. Donc les gens priaient dans les maisons. Les gens sauvaient les gens où? Les autres où? Ils les sauvaient dans les milieux de travail. Ils les sauvaient en chemin. et beaucoup de chrétiens étaient des commerçants et des hommes d'affaires. Et dans leur travail, ils rencontraient beaucoup de gens et ils parlaient du Seigneur. Et quand quelqu'un se convertissait, c'est là qu'on l'amenait dans les endroits de regroupement des chrétiens. On n'amenait pas les inconvertis. On amenait les gens qui se convertissaient dans le travail qu'on faisait à l'extérieur. Puisqu'il n'y avait pas trop de titres pasteurs pour qu'on dise, pour qu'on l'explique bien, il faut que ce soit le pasteur qui l'explique. Chaque chrétien se considérait comme un responsable, comme le temple de Dieu. Il savait que pour des questions un peu plus difficiles, il avait besoin des pasteurs ou des prophètes ou apôtres. Mais pour les questions de salut, pour les questions de présentation de Jésus, il savait lui-même le faire pour amener quelqu'un à la conversion. Et quand il fallait poser des questions difficiles, il les posait aux enseignants, aux gens qui avaient cette responsabilité-là. Et il allait encore à la bagarre pour sauver. La Bible dit, Étienne, quand on lit dans la Bible, Étienne était en train de parler à des sacrificateurs, maison par maison. Et il en avait converti beaucoup, il avait déstabilisé beaucoup. Il parlait, il faisait le travail. Ce n'était pas une question de salle. Parce que chaque chrétien savait, était conscient que Dieu habitait en lui pour travailler. Nous devons revenir dans cette conscience-là. Aujourd'hui, nous nous réfugions derrière les institutions, derrière les groupes qu'on appelle l'Église. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu peut permet qu'on ait des salles pour enseigner à un plus grand groupe, à un plus grand groupe. Il permet qu'on ait des salles pour faire le travail d'une manière, je dirais, constante. C'est-à-dire qu'on a un endroit dédié. Donc à tout moment, on peut y aller pour prier. À tout moment, on peut y aller pour prier pour la guérison d'une personne. On peut y aller pour des enseignements. Un endroit dédié, d'accord. Mais la vraie vie chrétienne, c'est la vie au dehors, parce que chaque chrétien est le temple. Dieu travaille en lui pour sauver les gens. C'est lui le temple. Vous comprenez que autrefois les gens allaient au temple pour recevoir le salut. Mais Dieu dit maintenant c'est toi le temple. Conséquence, c'est quoi? Les gens iront vers toi pour recevoir le salut. Puisque c'est toi le temple maintenant. Les gens allaient au temple pour essayer de parler avec Dieu, pour se mettre en contact avec Dieu. Maintenant Dieu dit que le temple, c'est toi. Conséquence, si les gens doivent trouver Dieu, c'est chez qui? C'est en toi. Voilà la mentalité que nous devons adopter, bien-aimés. Nous devons sortir de la logique de groupe de masse et entrer dans la logique de temple de Dieu, individuel. Ce n'est pas une logique égoïste, individualiste, c'est la vérité. Nous sommes le temple et nous devons démontrer par nos vies que Dieu est en nous pour sauver les autres. Et tout cela s'est fait par sa grâce, mais nous devons faire le choix et lui va travailler. Nous sommes le temple. On vise toujours l'église, ça c'est les institutions. Quand Dieu prend un individu et qu'il soumet cet individu à son projet, oh bien-aimé, cet individu fait des exploits. Dieu s'intéresse à un serviteur, il ne s'intéresse pas à beaucoup de gens, hein, à un homme. Un disciple, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc chaque disciple, il n'a pas dit, allez sauver les foules. Non. Faites de toutes les nations des disciples. Chaque personne un disciple. Parce qu'avec le disciple, Dieu va faire beaucoup plus de choses qu'avec une foule qui est là pour suivre, pour chauffer les chaises, pour satisfaire une obligation morale. Non, bien-aimé. Dieu cherche des disciples, des gens qui comprennent que le projet de Dieu, c'était qu'il soit mon temple. Maintenant, j'accepte ce projet-là et je le laisse travailler dans son temple. Je suis son temple. Je le laisse utiliser ce temple comme bon lui semble. Et avec de telles personnes, Dieu fait des exploits. Une organisation n'a pas plus de force qu'un individu. Si un individu est rempli du Saint-Esprit, un individu est soumis à Dieu, il va faire beaucoup plus de choses qu'une organisation. Vous savez qu'est-ce qui a fait chuter le christianisme? C'est que les gens se sont confiés dans les organisations au lieu de se confier à la logique de Jésus de faire des disciples. Aujourd'hui, quelqu'un, un serviteur qui va mourir, qu'est-ce qu'il veut, qui sait que dans 20 ans il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il va bâtir une très bonne organisation avec des règlements intérieurs, des statuts qui vont faire que quand il meurt, ses règlements intérieurs, ses bâtiments, l'argent qu'il laisse, c'est ça qui soutient l'œuvre. C'est faux! Un vrai serviteur, quand il meurt, il doit se chercher des successeurs individus. Des individus, pas se bâtir une organisation solide, mais se bâtir des disciples solides. Parce qu'un individu est plus fort, un individu rempli du Saint-Esprit, soumis à Dieu, est plus fort que beaucoup d'institutions. C'est la vérité. Nous avons vu ça avec Paul. Un seul individu, il a touché toute l'Asie. Un individu, parce qu'il était soumis à Dieu. Il avait livré toute sa vie à Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas des vrais temples de Dieu. Ils sont des temples moyens. Il y a un peu de partie de Dieu, il y a aussi un parti, des parties d'eux-mêmes. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils ne sont pas instruments entre les mains de Dieu parce qu'ils décident beaucoup de choses sur leur propre vie alors que c'est Dieu qui doit décider. Ils disent tout le temps « je » alors qu'il faut dire « le Seigneur ». C'est normal à cause de cela qu'on se réfugie derrière les institutions, derrière les groupes, derrière les masses parce que soi-même, on n'a pas été rempli de Dieu. Soi-même, on n'est pas vraiment le temple et on se réfugie derrière les masses. Un vrai chrétien ne se réfugie pas derrière les masses. Il le sait qu'il est de Dieu. Vous savez, quand je suis arrivé dans la région parisienne, j'étais déçu par les églises parce que je venais du Maroc. On était tranquille là-bas. Arrivé à Paris, je voyais toutes sortes d'escrocs, toutes sortes de problèmes dans les églises et ça fait beaucoup à cause de ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rétrogradent dans la foi. Mais Dieu m'a donné Jérémie 3.15. Il m'a dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous paître avec discernement et sagesse. Quand j'ai lu ce verset-là, moi j'ai dit, je ne dépends pas des organisations. Une organisation qui meurt, moi le dimanche prochain, je ne le passe pas sur mon canapé. Hein. Je vais, puisque Dieu m'a promis qu'il va me donner des bergers qui vont me paître avec discernement. Quand une église à laquelle je fréquentais fermait pour cause des troubles, pour cause des mésententes, pour n'importe quelle cause, moi, les dimanches qui me suivaient, soyez sûrs, vous ne me trouverez pas à la maison, j'étais à la recherche d'un autre groupe. Parce que je savais que ces groupes-là existaient. Où Dieu était là, il y avait des frères et sœurs, comme moi ailleurs, quelque part, j'étais à la recherche. J'ai cru en ce qui est écrit, puisque je croyais en Dieu, plus qu'en ce que je voyais, la déception liée au groupe bien-aimé. Est-ce que tu as une vraie communion avec Dieu lui-même, où tu réalises que tu es de lui, que tu ne t'appartiens plus, où tu réalises que ta vie a des implications qui te dépassent, où tu réalises que tu n'es qu'un pion? Si tu n'as pas encore réalisé que tu n'es qu'un pion, il y a un problème, tu partages ton temple entre toi et Dieu. Un vrai chrétien va à un moment réaliser que sa vie le dépasse. Les implications de sa vie le dépassent. Finalement, il est un pion dans un terrain. Parce que c'est, il y a quelqu'un d'autre, un autre maître qui dirige. C'est ça le vrai chrétien. Mais tout le reste, c'est de l'accompagnement. C'est du tourisme. On vient, on dit, bon, on était parti au culte, on s'est habillé en costume, cravate, on part en famille, on rentre en famille, allez, on y va. Paris Saint-Germain, OM, hein. Allez, Desperate, c'est quoi, Housewives, ou... allez, on peut se lâcher maintenant en regardant les concerts ou autre chose, bien aimé, ça c'est le tourisme. Le vrai chrétien, c'est qu'il est le temple de Dieu. Là où il est, il doit imposer Dieu. Bien aimé, là où il est, il doit imposer Dieu. Et je sais que parfois, beaucoup de gens ont honte de se promener avec moi parce que, je vais mettre ma casquette, c'est écrit Jésus, c'est le seul recours. Je vais mettre ma veste, c'est écrit Jésus, c'est mon seul recours. Alors tu vas voir, les gens tout le temps me regardent. Moi, j'ai dit, je vais imposer Dieu, qu'on le veuille ou pas. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Je ne suis qu'un pion. Je dois jouer mon rôle de pion, bien-aimé. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu a besoin de toi individuellement. Intéressons-nous aux disciples, ne nous intéressons pas aux institutions. On peut avoir une belle organisation. Il suffit d'un problème entre 4 ou 10 personnes, l'organisation tombe. Mais quand on a des hommes forts, des vrais chrétiens, même quand l'organisation tombe, ils ressuscitent cette organisation. L'organisation n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un objectif, ce n'est qu'un moyen. On s'organise pour nous faciliter la tâche de travailler, mais l'organisation n'est pas là, l'objectif. L'objectif, c'est de faire des temples du Saint-Esprit. Chaque homme, on sait qu'avec de telles personnes, on fera des exploits. On sait qu'avec de telles personnes, sans bâtiment, on peut sauver des gens, bien-aimés. Les premiers chrétiens sauvaient sans bâtiment. Ils sauvaient dans la rue, ils sauvaient chez eux, ils sauvaient en invitant quelqu'un manger chez eux, et ils sauvaient comme ça. En faisant des repas avec certains voisins du quartier, ils sauvaient en étant commerçants. Quand quelqu'un disait, mais comment tu es prospère? Ben, je suis prospère parce que tout mon commerce est sous l'autorité de Dieu. Ils sauvaient en étant exemplaires à l'endroit de travail. Et quand on disait, mais pourquoi tu es honnête? Mais je suis honnête parce que l'objectif de Dieu pour l'humanité, c'est qu'on soit honnête. Et la discussion commençait, et pas à pas, ils sauvaient. Nous nous sommes pressés, nous voulons gagner des foules. Il y en a qui ont fait des songes, ils prêchaient devant les foules. Bien aimé, en général, c'est des faux songes. Ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse le travail des rongeurs. Sauver un individu par individu. Ce n'est pas tout ce qu'on peut dire comme ça, globalement. Qui veut être sauvé? C'est bien, il y a des gens qui s'engagent. Mais nous, les pasteurs, nous ne connaissons pas tout. C'est Dieu seul qui connaît qui s'engage vraiment. Et c'est ce qui est important, que nous puissions nous attarder sur chaque individu. Il ne faut pas que nous soyons légers, que nous voyons les choses en groupe. Quand il y a beaucoup de monde, on est content. Quand il y en a peu, on n'est pas content. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il peut y avoir peu de monde. Et dans ce peu de monde, il y a un homme que Dieu va utiliser puissamment pour sauver encore des millions. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Si tu es chrétien, c'est ton jour que tu acceptes de devenir le temple de Dieu. La nourriture passera. Les vêtements passeront. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 85 ans et qui ont 1 milliard de dollars dans le compte. Ils ont 95 ans, ils ont 1 million de dollars dans le compte. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire encore? Tout cela passera. Mais la gloire de Dieu ne passera jamais. C'est le moment de faire ce choix-là. Bien-aimés, dans les années, vers le 17e siècle, il y avait beaucoup de missions anglaises en Chine. Quand je dis mission, ça veut dire des organisations bien structurées qui avaient comme objectif de sauver les Chinois en les amenant à Christ. Mais je peux vous dire que ces organisations très bien structurées, avec des bons bâtiments, avec des gens formés qui ont fait la théologie, avec des gens bien riches, ces organisations n'arrivaient même pas à convertir un ou deux, trois Chinois. Donc, ils restaient au bord de la mer, hein, prêts à fuir en Angleterre en cas de problème. Ils restaient au bord de la mer, sauver les quelques rares Chinois qu'ils pouvaient faire, mais avec de gros bâtiments, de grosses organisations. Mais Dieu a appelé un homme, Hudson Taylor, qui était étudiant en médecine. Étudiant en médecine. Même pas formé à la théologie. Mais Dieu l'avait touché, avait changé sa vie. Il était devenu le temple de Dieu. Dieu l'envoie en Angleterre. Non seulement sans formation théologique, non seulement qu'il n'avait pas fini ses études de médecine, mais il part sans argent, sans être soutenu par une organisation. Mais bien aimé, il arrive là-bas, il trouve toutes ces organisations bien dans de gros bâtiments. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'allez pas sauver les Chinois, vous restez à la mer. Ils disent, mais oui, nous faisons le travail, mais oui, mais ça fait des années. Il dit, moi, je vais aller à l'intérieur de la Chine. Donc c'est la personne qui a créé ce qu'on appelle la mission intérieure de la Chine. Bien-aimé, il a enlevé les habits européens, il a mis les habits chinois. Il a laissé la barbe comme les Chinois, il est entré à l'intérieur. Il a appris le chinois et c'est lui qui a l'origine du grand changement chrétien en Chine. Un homme a été plus puissant que plusieurs organisations bien établies, bien structurées. Parce que Jésus était à 100% en lui. quelle est la plénitude de Jésus en toi? C'est ça la question. Quelle place occupe Jésus en toi, dans ta vie? C'est ça la question. Hudson Taylor, rien que tout seul, il a produit des disciples qui l'ont imité. Et ses disciples ont fait le même travail. Et la mission s'est répandue. C'est grâce à ces missions-là qu'on a connu des gens comme Watchman Nee et tous ces Chinois que l'on connaît, qui ont fait du bon boulot. Mais c'est grâce à cette mission-là, bien-aimés. Nous devons laisser Dieu occuper tout l'espace. Nous devons arrêter avec le « jeu. Je pardonnerai quand j'aurai envie. Je prierai quand j'aurai envie. J'obéirai quand j'aurai envie. » Bien-aimé, c'est le jour où Dieu t'appelle à devenir le temple, là où il siège et il fait son œuvre. Alors certains pensent peut-être qu'il doit faire comme Hudson Taylor. Non! Tu dois être juste le temple où Dieu va être le chef. Il saura quoi te faire faire. Parfois, il ne te fera rien faire. Juste que tu sois son temple. Et un moment, il va faire. Parfois, il va te demander de rester silencieux, de le laisser travailler, bien-aimé. Il sait ce qu'il fait. Il veut seulement que tu lâches prise sur toi-même. Tu es son temple. Nous avons tous entendu parler, enfin tous, la plupart entendu parler de ce monsieur en Australie qui avait été sauvé miraculeusement par Jésus et qui s'était promis ceci. Il a dit, Jésus, comme tu m'as sauvé alors que j'étais mauvais, pécheur, alors moi, je vais distribuer chaque jour à tel endroit un tract. Il avait un tract qui parlait de Jésus. Je vais le distribuer dans cette rue-là, chaque jour. Et vous savez comment il distribuait ça? Il disait, il donnait à la personne le tract, il disait, si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Je crois que beaucoup allaient nous dire, non, ce n'est pas la bonne méthode pour évangéliser. Vous allez faire peur aux gens. Dites-leur que Jésus peut les aider. Dites-leur que Jésus peut le guérir. Dites-leur, Jésus peut arranger et vous priez pour eux. C'est faux. Jésus a dit, quand lui-même évangélisait Jésus, il disait, répentez-vous. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est jugé. Alors cet homme-là donnait le tract et disait, si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Bien-aimé, il a fait 30 ans de boulot. Il n'a jamais vu une seule personne se convertir. 30 ans environ. Et 2 semaines avant sa mort, un pasteur qui avait rencontré... Vous savez, Dieu a permis qu'un pasteur, pendant plusieurs moments, rencontre des gens qui avaient reçu ce tract-là. À tel point que le pasteur lui-même est allé en Australie pour chercher cette rue-là. Parce qu'il disait, mais pourquoi Dieu permet que je rencontre des gens qui ont reçu ce tract-là? Dans l'espace de 30 ans. Et vous savez, beaucoup en réalité étaient sauvés par lui. Beaucoup. Donc quand il donnait le tract, les gens ne réagissaient pas. Mais quand il allait chez eux, ça les suivait. Cette question-là les suivait. Et ils allaient chercher une église. Ils allaient chercher un pasteur. Et beaucoup se sont convertis. D'autres ont devenu des chefs de mission. Ils ont converti des centaines de milliers de personnes dans plusieurs pays du monde. Et ce pasteur-là, lui, il a eu la grâce de rencontrer ces gens qui témoignaient. Mais tout cela, le monsieur qui distribuait ignorait cela. Et le pasteur est parti le chercher. Il lui a raconté tout ce que ce tract avait fait comme exploit. Il est mort dans la joie 2 semaines après. Il est parti au ciel. Le boulot était accompli. Mais aux yeux humains, il avait échoué. Quand il ne savait pas, les gens allaient dire, oh, ça ce sont des vieilles méthodes d'évangélisation. Il faut aller dans les télévisions. Il faut aller dans les radios. Utiliser la technologie. Mais non, il faut utiliser la technologie que Jésus te donne. S'il te donne des sandales comme technologie, il faut les utiliser. S'il te donne la parole comme technologie, utilise ça. Ne suis que Jésus. C'est lui qui va t'enseigner la technologie adoptée. C'est très important. Ne cherchons pas les grandes choses. Soyons simples. La Bible dit dans Romains 12, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé. Soyez attirés par ce qui est humble. Et nous allons voir ce que Jésus va faire comme exploit, bien-aimé. Réveillons-nous. Un homme, temple du Saint-Esprit, peut faire des plus grands exploits que des institutions. Et Dieu veut que tu sois cette personne-là. Que tu sois la personne qui va prier et lui va agir. La personne qui va parler et lui va agir. Ce qui compte, c'est les disciples. Et la Bible dit dans 1 Pierre 2, 5, de 4 à 5, 1 Pierre 2, 4 à 5, ce n'est pas une prédication pour encourager l'individualisme, pour encourager l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est pour nous prendre, faire prendre conscience que chaque homme, chaque chrétien a une grande importance et a un grand rôle à jouer vis-à-vis de Dieu. 1 Pierre 2, 4, 5, il est écrit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Il parle de nous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Oui, nous sommes rejetés, nous sommes incompris, nous sommes considérés comme sectaires, nous sommes considérés comme des gens qui ne réfléchissent pas. Mais la Bible dit, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Pierre rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Maintenant que chacun va prendre conscience qu'il est le temple, mais quand on va se réunir, oh là là, il dit, nous allons nous édifier en maison spirituelle. Et quand nous allons nous réunir, ça sera le feu. Quand nous allons nous réunir, ça sera la joie. Les enfants du même Père et des temples. Vous savez, c'est beau de se voir. C'est beau de se voir. C'est-à-dire que quand tu vois un autre chrétien, tu te dis, mais oui, mais c'est, ce qui se passe en lui, c'est la même chose qui se passe en moi. C'est beau de voir cela. Moi, il y a des chrétiens qui m'épatent à cause de leur simplicité, à cause de leur mentalité d'enfant. Il y a des gens qui ne s'inquiète de rien, dès qu'il y a un problème. Ah bon, on va prier, le Seigneur va faire. Je vois le philosophe, le chrétien intellectuel qui, lui, va chercher des solutions, il va s'épuiser. Mais le chrétien forgeron lui dit, bon non, non, nous avons Dieu. Et quand j'entends ça, j'ai envie de pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, ça, voilà un vrai chrétien. Moi, je ne suis qu'un faux chrétien. Voilà un vrai chrétien. Bien-aimé. Tout, il te soumet tout, bien-aimé. On te dit, il y a le tremblement de terre, à quand? Eh bien, on va prier que Dieu nous guide. Il y a l'armée allemande au zénith de Rouen. Ben, nous, on va prier. Dieu va s'occuper de ça. Vous savez, un homme a été sauvé par qui? Par une araignée. Hein? Dans le pays où on persécute les chrétiens. Il était un serviteur de Dieu. Il prêchait la parole, il distribuait les tracts, il faisait le travail de Dieu. Un jour, les soldats débarquent, les policiers débarquent par surprise, boum, dans la maison. Il fuit, il va dans la cour. Il n'y avait pas d'endroit où se cacher, il y avait des vieilles baraques. Il a dit non, ils vont aller là-bas. Et puis, il entre, il n'avait qu'un seul endroit où se cacher rapidement, parce que c'était rapide, ils entrent brutalement. L'endroit qu'il a trouvé, c'était un vieux four. Les fours d'autrefois, c'était en briques, hein. Donc, il trouve un vieux four, il entre dedans. Et quand il entre dedans, les soldats font le tour, ils cherchent partout. En quelques minutes, hein, en quelques minutes, les soldats cherchent partout et ils arrivent au vieux four. Ah, ils disent, il peut être qu'il est dans ce vieux four. Ils arrivent là-bas, ils voient le four et obturé, caché par une toile d'araignée. Ils disent, comme il y a eu la toile d'araignée, si lui devait passer, il devait casser la toile d'araignée. Puisque la toile d'araignée est là, c'est qu'il n'est pas entré là-bas. Or, quand il est entré, Dieu a envoyé une araignée faire la toile rapidement, bien-aimé. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais si tu es un chrétien touriste, tu ne peux pas vivre ces choses-là. C'est les CRS qui vont te protéger. Mais si tu es un véritable chrétien, c'est une toile d'araignée qui va te protéger. Pour que Dieu soit glorifié, bien-aimé. C'est cela. Dieu est tout puissant. Les gens cherchent des miracles. Le grand miracle, c'est que Dieu habite en toi à 100%. Là, tu vas comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Tu vas réaliser qui est Dieu. Quand il va habiter en toi à 100%. Comme j'ai dit vendredi, il y a des moments où il faut goûter. L'apôtre Pierre dit, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Il y a des moments où il faut goûter, dire, je vais essayer d'appliquer ce qu'on a dit là. Puisque c'est écrit, je vais essayer. que Dieu soit à 100% en moi. Bien-aimé, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Le temps des miracles n'est pas passé. Mais ce qui est passé, c'est le temps des vrais chrétiens. Nous devons revenir au temps des vrais disciples, des vrais temples de Dieu, des gens qui savent qu'un individu avec Jésus est plus fort que des institutions, plus fort qu'une armée. Nous devons revenir à cela. Des gens qui ne dépendent pas des bâtiments, qui ne dépendent pas des institutions, mais qui dépendent de Dieu. Et lorsque nous nous retrouvons dans les institutions, lorsque nous nous retrouvons dans les bâtiments, nous nous retrouvons entre temples, dans la maison spirituelle, en formant une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle, c'est vrai, a un ordre, a des principes établis par Dieu. Mais si on est temple de Dieu, aucune maison spirituelle, si elle est pourrie, ne pourra nous submerger. Dieu nous sortira toujours pour nous amener dans une autre maison spirituelle qui est bonne, qui est dirigée par lui-même. Parce qu'on sera toujours préservé des erreurs des humains, parce que nous sommes le temple de Dieu. Bien-aimé, c'est personnel. Et après que ça se soit personnel, ça devient collectif, pas dans le sens où c'est le collectif qui est important, mais c'est le fait que chaque membre du collectif est une pierre vivante. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas le collectif en lui-même, c'est le fait qu'il y ait des pierres vivantes dans ce collectif-là. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Suivons l'exemple de Jésus lui-même. Suivons l'exemple de Jésus qui a été une vraie pierre, la pierre de l'angle, qui s'est humilié, qui a laissé Dieu gagner jusqu'au bout. Il a dit, Père, si tu pouvais ôter cette coupe de moi, il a dit, mais non, que ta volonté se fasse. Sois le maître, dirige toutes choses. Bien-aimé, quand Dieu va te diriger totalement, tu seras obligé de t'humilier devant les hommes. Tu seras obligé de faire des choses, des actes rabaissants, qui paraissent déraisonnables, mais tant que c'est selon la volonté de Dieu, tu vivras la gloire de Dieu. Imitons Jésus, qui a sauvé l'humanité par une mort à la croix. Qui pouvait penser cela, que c'est la mort à la croix qui sauvait l'humanité? La Bible dit dans 1 Corinthiens que les forces des ténèbres, si elles savaient ça, elles n'allaient pas crucifier Jésus. Ça a été, elles ne pouvaient pas imaginer que la mort de Jésus-Christ était le salut de l'humanité. Beaucoup de chrétiens aiment les miracles de Jésus, mais ce qui nous a sauvés, c'est sa mort. C'est cette simplicité-là. Parce qu'il était totalement donné à Dieu. Dieu a dit, je n'ai pas voulu d'autre sacrifice. Et Jésus a dit, moi je vais être le sacrifice. Nous aujourd'hui, on veut être le grand évangéliste. Le grand, mais non, le grand, c'est celui qui s'humilie. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples qui cherchaient à être le plus grand, il dit, celui qui est comme cet enfant-là, qui est petit comme cet enfant, qui a un cœur comme cet enfant-là, c'est lui, celui-là qui est le plus grand. C'est ça, bien-aimé. Revenons au véritable évangile du temple de Dieu. Et nous verrons les choses telles que Paul les a vues. Nous verrons les choses telles qu'Étienne a vues. Nous verrons les choses. Et Dieu va se glorifier. Amen.